Reçoit au téléphone Régis du collectif Nos Retraites. Bonsoir.
Bonsoir, merci de votre invitation. Pardon de mon retard.
Non, pas du tout. Justement, ça nous permet de conclure une émission autour du thème de la réforme des retraites et du blocage de cette réforme. Et ce qu'on a envie de vous demander tout d'abord, c'est qu'est-ce qu'il faut retenir de l'intervention d'Édouard Philippe de ce midi ?
Alors, l'intervention du Premier ministre ce midi, elle nous dit plusieurs choses. Déjà, ce qu'il faut en retenir, c'est que tout le monde reste concerné. Contrairement à ce qui est affiché à plusieurs endroits, en fait, la question de ceux qui sont nés avant ou après 1975, il faut se dire que ceux nés avant 1975, ils vont devoir travailler plus longtemps, voire leur pension réduite, avec des mesures d'économie assez classiques. Ceux qui sont nés après 1975, ils auront droit au nouveau système à points, avec tous les défauts qu'on a déjà identifiés dans le passé. Je sais pas si vous voulez que j'évoque.
En fait, moi j'avais une question parce que c'est vrai que je me pose la question et je pense qu'on est nombreux à se poser cette question, c'est pourquoi une telle crispation du gouvernement sur cette réforme, pourquoi est-ce qu'ils tiennent absolument à présenter cette réforme, puisqu'on l'a vu, hein, malgré quand même une forte mobilisation contre la réforme, finalement l'annonce de ce midi, ça a été exactement ce à quoi on s'attendait, pourquoi le gouvernement tient à impérativement à faire passer cette réforme par points, avec laquelle tout le monde va être perdant, hein, comme vous venez de le rappeler.
En fait, tous les débats les crispations et les tensions même à l'intérieur du gouvernement nous montrent qu'une chose qui est assez simple en fait. Le cœur du projet reste le même quel que soit son packaging, c'est-à-dire le contrôle budgétaire. En gros, le gouvernement l'a annoncé l'an dernier, on avait Delevoye sur France Inter qui disait 14% du PIB c'est un plafond. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui on met 14% des richesses du pays dans le financement des retraites pour 20% des plus de 65 ans. Sauf que si on bloque cette part, on va avoir moins de gâteaux par personne, puisque c'est la part des plus de 65 ans, on va passer de 20 à 27% d'ici 2050. Et donc, ça fera moins de financement public. Donc, c'est autant de gens qui, soit devront se contenter du minimum de retraite, soit pour ceux qui sont plus favorisés, vont devoir se tourner vers la capitalisation pour faire face à cette baisse des taux de remplacement, cette baisse du niveau de vie à la retraite.
Donc vous pensez que derrière la réforme, il y a quand même en fait la retraite par capitalisation qui pointe le bout de son nez.
En fait, c'est très simple. Dès qu'on a une baisse des taux de remplacement, une baisse des niveaux de vie, ceux qui peuvent se le permettre vont essayer de compenser. Donc on voit bien qu'il y a déjà plusieurs dispositifs qui ont favorisé l'émergence des fonds de pension. Il y a le plan épargne retraite, les fonds de pension sont défiscalisés. Donc pareil, c'est un autre manque à gagner pour l'État. Et que ce soit pour le système à points ou pour les mesures d'économie pour ceux qui partent à la retraite avant le système à points, c'est autant de gens qui se font prendre des économies sur leur retraite. Et toutes les réformes passées par ailleurs visaient à baisser les cotisations et donc à baisser le financement des retraites. Donc il est vraiment là le cœur du sujet, il est baisser le financement public et solidaire de nos retraites.
Mais ce qui est étonnant, c'est que ce financement, en fait, il est fait par les salariés. Donc finalement, les cotisations qui remplissent les caisses de retraite, on a du mal à imaginer pourquoi le gouvernement veut absolument baisser ces cotisations, pourquoi le gouvernement veut absolument revenir sur ce financement par les caisses de retraite. Est-ce qu'il n'y a pas aussi derrière une volonté du gouvernement de mettre la main finalement sur cette manne d'argent public ?
Clairement, c'est un gros pactole. C'est 300 milliards d'euros qui financent les retraites. C'est la plus grosse part des dépenses sociales. C'est quelque chose qui est aujourd'hui démarchandisé dans le sens où c'est dans notre système solidaire où on se le répartit. Il n'est pas investi par des fonds privés dans des investissements douteux. C'est de l'argent qui nous appartient, qui est socialisé. Ce qu'on voit avec ce projet, c'est une vraie attaque là-dessus. Mais c'est intéressant parce que ils essayent de mettre des garanties, de montrer des gagnants qui, en fait, dès qu'on les gratte un peu, on voit que c'est pas si rassurant. Typiquement sur les femmes, ils disent que ça va être les grandes gagnantes de la réforme, alors que on a plusieurs dispositifs qui mettent en menace leur autonomie financière à la retraite. Certes, le statu quo est mauvais, mais là, le projet présente des choses presque pires. Entre la disparition des trimestres alloués aux mères pour une majoration à distribuer dans le couple, si le salaire de monsieur est plus intéressant, c'est sur lui qu'on va mettre cette majoration. Il y a la disparition des pensions de réversion, c'est-à-dire pour les veuves en cas de divorce. Il y a le système à points qui accentue le calcul des périodes de trous dans la carrière, donc qui va toucher surtout les femmes. Donc c'est autant de choses qui sont assez inquiétantes quand on voit l'impact de la réforme.
Et ce système à points, a priori, il va être géré comment ? Ça va rester une gestion paritaire ?
Alors l'idée, c'est un nouveau conseil de gouvernance qui pourra porter le coup politique des économies à la place du gouvernement, mais dans lequel il y aura les partenaires sociaux et certainement des représentants de l'État. C'est pas encore totalement acté. Et par ailleurs, ce que Philippe a annoncé, c'est que si ce conseil de gouvernance ne se mettait pas d'accord, eh ben, ce serait au Parlement de trancher. Et donc, ce qu'on voit, et ce qui a été le cas depuis plusieurs décennies, on a de plus en plus de contrôle de l'État de ses dépenses. Donc on s'éloigne d'une gestion par les ouvriers, comme ça a pu être l'esprit au moment de la construction du système.
Et donc, l'autre problème, peut-être qu'on va finir là-dessus, parce qu'en fait, on en parle, et puis finalement, on a très peu de chiffres, c'est le fameux déséquilibre entre les actifs et les inactifs. Déjà, d'une part, ce déséquilibre, finalement, il est temporaire, hein, puisque les baby-boomers qui maintenant arrivent à la retraite, ils vont finir par mourir, et puis ensuite, il n'y a pas eu de baby-boom particulièrement, donc on imagine que ce déséquilibre va finalement, démographique en tout cas, va finalement se rééquilibrer. Et l'autre déséquilibre dont on parle beaucoup, c'est l'allongement de l'espérance de vie. Or, cet allongement de l'espérance de vie, elle stagne depuis ces dernières années, non ?
On a une stagnation effectivement assez récente de l'espérance de vie simple. Ce qui est intéressant sur les questions d'âge, notamment avec le nouvel âge d'équilibre à 64 ans qui sera reculé en fonction de l'espérance de vie. Donc l'âge d'équilibre, c'est si on part avant, on est pénalisé, si on part après, on est survalorisé. Il va être reculé avec l'espérance de vie. Donc pour les gens nés en 1980, ça sera déjà 65,4 ans. Pour les gens nés en 1990 comme moi, ça sera 66,25 ans. Donc on va reculer. En attendant, l'espérance de vie en bonne santé, celle qui nous permet le moment où on peut travailler, en fait, tout simplement, stagne depuis plus de 10 ans à 63 ans. Et par ailleurs, on a depuis très longtemps, longtemps maintenant, un senior sur deux qui est en inactivité au moment de liquider sa retraite. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? C'est-à-dire autant de gens qui voient soit une grosse dégradation dans leur retraite, soit qui cumulent plusieurs années ni retraite ni emploi. Et tout ça, c'est autant d'argent qu'on n'a pas à financer. Et ça, c'est vraiment une question. En fait, la question de tout ça, c'est quel montant, quel argent on met dans notre système ? Parce que dans tous les cas, on va avoir un système de retraite, c'est sûr, mais ça dépend vraiment de choix politiques de le financer ou non.
Oui, d'autant que l'espérance de vie, alors je reviens là-dessus, parce que c'est quand même une question qui est importante, elle est totalement inégale, c'est-à-dire que selon les métiers, en fait, on n'a pas la même espérance de vie et pas la même espérance de vie en bonne santé. Qu'est-ce que la réforme dit de ça ?
La réforme ne dit pas grand-chose, et au contraire, aujourd'hui, on avait la durée de cotisation qui pouvait permettre, par exemple, aux carrières longues ou à certaines situations, ceux qui ne font pas d'études, de partir plus tôt. Là, on a la double peine, puisque cet âge d'équilibre sera aveuglément appliqué à toute une cohorte, et on sait que certaines catégories moins favorisées sur le marché de l'emploi, les ouvriers, ont une espérance de vie, par exemple, qui est plus faible que celle des cadres. Donc, ce qui a amené certains à dire, on va avoir un nouveau système où les ouvriers cotisent pour la retraite des cadres. Donc, on a des vraies injustices et des vrais déséquilibres. Certes, le statu quo aujourd'hui, il est plein de ces injustices et déséquilibres, mais tout porte à croire que le projet de réforme va aggraver ces inégalités et ces injustices.
Alors, dernière question, parce que l'émission touche à sa fin, mais justement, puisqu'on parle des injustices et de l'inégalité, une question qu'on peut se poser, c'est que les inégalités salariales, elles sont déjà difficilement justifiables, mais certains économistes essayent de les justifier avec des écarts de productivité ou que sais-je. Les inégalités de pension, comment est-ce qu'on pourrait les justifier, puisque là, elles vont s'aggraver ?
Les inégalités de pension, elles vont venir du fait que le système à points prend toute la carrière en compte. Aujourd'hui, on a un système où les mécanismes de solidarité font partie du système. C'est-à-dire quand vous avez votre période de chômage ou vos trous dans votre carrière, ça sera un peu réduit par le fait que votre calcul de retraite prend les meilleures 25 meilleures années dans le privé ou les 6 derniers mois pour les fonctionnaires. Et là, tout ça, ça va disparaître avec le système à points. Même dans les périodes de vache maigre, il va falloir continuer à accumuler des points. Et c'est pour ça qu'on va avoir autant de gens qui vont se retrouver au minimum et qu'on va avoir une baisse des taux de remplacement et du niveau de vie au moment de passer la retraite.
Merci beaucoup. Alors, c'est un peu court, malheureusement, mais l'émission se termine. Merci beaucoup, Régis, du collectif Nos Retraites, d'avoir appelé. J'espère que tout le monde reste bien mobilisé contre cette réforme.
Merci beaucoup. On a vu qu'il y a une grosse journée de mobilisation qui se prépare pour le 17 décembre. Je vous remercie pour votre travail et pour faire de la pédagogie sur le sujet. C'est important.
Et pour en savoir plus sur le collectif Nos Retraites, vous avez un site internet, un Twitter ?
Alors, on a le site réformedesretraites.fr, on essaye de faire des décryptages. Il existe aussi le site laretraite.lol sur lequel on peut cliquer sur quelques catégories pour voir, sur ma situation. Qu'est-ce que ça impacte ?
Et c'est Twitter, pas marrant.
Vous pouvez, ouais. Et sur Twitter, vous pouvez nous retrouver à @nosretraites, dans lequel on a pas mal de threads, c'est-à-dire de descriptions un peu plus ciblées sur la capitalisation, sur l'impact sur les femmes, sur les jeunes, etc.
En tout cas, merci d'être intervenu sur ce plateau et on vous suit, on va continuer à lutter avec vous contre cette réforme des retraites. Merci.
Merci à vous.